بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Peu s'en faut que ceux qui m'y croient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou » et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. La semaine dernière, on avait commencé donc à commenter ces derniers versets de la sourate Al-Qalam à travers lesquels Allah Azza wa Jalla rappelle que la méchanceté de Quraysh ne se limitait pas aux paroles, ne se limitait pas aux accusations, à la désinformation. La méchanceté de Quraysh ne se limitait pas aux coups, aux blessures, aux atteintes physiques à l'encontre des sahaba et aux tentatives à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayaient également d'atteindre le prophète alayhi salatu wassalam par leur regard rempli de méchanceté, leur regard envieux, rempli de jalousie et rempli de méchanceté. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la protection de la part d'Allah azza wa jal. Ibn Kathir rahimahullah, on avait vu qu'à travers ce verset, il déduit, et les savants déduisent, les mufassirines en général, les muhaddithines à travers les hadiths, ils rappellent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le monde de l'invisible et qui peut faire du tort, j'allais dire aux croyants, à toute personne, à tout être humain, de la même façon que le sihr, la sorcellerie, peut faire du tort à des personnes tout en appartenant à un monde parallèle qui ne nous est pas accessible, qui ne doit pas être accessible non plus, avec lequel on ne doit pas avoir d'échange. Et cette autre chose qui est là aussi en rapport avec l'invisible, c'est Al-Ain. C'est le regard, le mauvais regard. On parle principalement du mauvais regard. Quand on parle du mauvais regard, on a vu, je pense, un ou deux hadiths. Certains savants disent que le mauvais regard, c'est uniquement le regard admiratif. Il dit que quand quelqu'un admire sans faire le dhikrullah, sans ramener le bienfait vers Allah Azza wa Jal, c'est là que le regard peut porter, pas chaque fois, ce n'est pas une fatalité, peut porter préjudice, bi'idhnillah. Mais d'autres savants, et on est un peu plus de cet avis, que certes, il y a le regard admiratif, mais il y a également le regard rempli de méchanceté. Il y a la personne qui t'admire, qui admire un bienfait que tu as, mais c'est une personne, et on avait parlé de ces deux maladies, qui a un cœur malade, maladie spirituelle, deux maladies. Première maladie, c'est que Hubbud Dunya est entré dans son cœur. Donc ses yeux s'attardent sur ce qui brille. Quand il voit quelqu'un qui a une belle voiture ou qui a un niveau de vie qui est supérieur au sien, ben pour lui, ça c'est la totale. Cette personne a eu tout ce qu'un être humain peut rêver. C'est-à-dire que sa conception du ni'ma, du bienfait limité. Et l'autre maladie que cette personne qui est jalouse, elle a dans son cœur, c'est al-hasad, la jalousie. Justement, la personne jalouse, elle est atteinte de jalousie. Et al-hasad, c'est natija, ça résulte d'un manque de confiance en Allah. Al-hasad, c'est quand la jalousie, c'est lorsque tu n'as pas compris que c'est Allah qui donne les bienfaits à qui il veut. Allah décrète qui est riche, qui est pauvre, qui va réussir, qui va moins réussir. Tout ça, c'est dans le pouvoir d'Allah et de ça, dans son partage, son taqsim, et cela découle de sa sagesse et de sa justice. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal opprimerait un être humain? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, en donnant plus à une personne et moins à une autre personne, est-ce que c'est de l'injustice? Ce n'est pas de l'injustice. Parce qu'à travers le hadith, Allah Azza wa Jal a promis qu'il déteste le zulm et qu'il ne fait pas de zulm entre ses créatures. Fala tadhalamu, et vous-même, n'agissez pas, ne vous oppressez pas. Ne faites pas l'oppression. C'est-à-dire que lorsqu'Allah décide, par exemple, parfois dans une même famille, on a un frère qui réussit, il fait des études, mashallah, il va très loin, il a un métier très intéressant, il a un niveau de vie intéressant, et l'autre qui a beaucoup plus de mal à décoller. Alors quand on dit que ben, c'est Allah qui a décidé que ça se passe comme ça. Après, bien sûr, Allah a décrété que le taqdir se passe de cette façon. Après, il y a les asbab. Il y a d'un côté une personne qui a fait des efforts, de l'autre côté la personne qui ne va pas travailler, et ainsi de suite. Tout est lié. C'est-à-dire que l'homme, ce qui est demandé à l'être humain, c'est de faire doit, de faire les efforts. Et ce qui arrive, c'est ce qu'Allah a décrété. Maintenant, si une personne reste chez lui, il ne travaille pas, il ne fait rien, il attend que le risque arrive, ça ne marche pas. Et dans un hadith de Riyad al-Salihin, on n'a pas pu le voir lundi dernier, ce sera lundi, Inch'Allah, ce hadith très connu, de lequel le prophète alayhi salatu wasalam fait une comparaison en parlant de la confiance en Allah. Si vous aviez confiance en Allah, azza wa jal, comme vous devez avoir, vous seriez comme l'oiseau. Comme l'oiseau, il quitte son nid, le ventre vide, et lorsqu'il retourne, il a le ventre plein. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ont bac plus 4? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont Pôle emploi? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont plumés et d'autres qui ont plus de plumes? Non. Khalq min khalqillah. Le rizq, la subsistance est dans les mains d'Allah. Et l'oiseau, il ne connaît pas la famine, il connaît tout ça. Il y va, il trouve son risque. Mais, ce que les muhaddithines, là on n'est pas dans les muhaddithines, ce que les muhaddithines les rappellent, vous voyez l'oiseau, sa subsistance est dans les mains d'Allah, oui. Mais l'oiseau quitte son nid, il va chercher, il bouge, il fait l'effort. C'est même un petit oiseau qui reste dans son nid avec ses deux petits ailes, qui demande doigt. Ce n'est pas comme ça. L'oiseau, c'est dans sa création. Il y a un terme un peu plus scientifique, certainement. C'est dans sa nature. D'accord? Le matin, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau qui fait grasse matinée? Est-ce qu'il y a un oiseau qui dit aujourd'hui dimanche? Genre, il ne sera pas rodé, il mange gâteau à Youb, tranquille. Il n'y a pas ça. L'oiseau, il fonctionne comme ça. Le matin, quand Subhanallah, il se lève, ben, il va chercher son risque. C'est-à-dire que le hadith, vous voyez toutes les métaphores, les exemples, tu sais pas le problème, c'est sans faille. Et autant on creuse, autant on trouve de sagesse. C'est pour ça qu'on a besoin d'artistes. On a besoin d'artistes spirituels. Il faut être capable d'admirer, il faut être capable de contempler, de voir la beauté. On en parlait pour le Jum'a. Il y a des gens qui, quand on parle du voyage nocturne, on ne fait qu'écouter. On ne contemple pas. On ne va pas en profondeur pour tirer ce qui nous est profitable. Il y en a quand ils écoutent le Coran, ils se suffisent d'istima', de l'écoute. Mais il ne va pas chercher le contenu. Ben, quand on voit ce texte prophétique, il ne faut pas juste le mémoriser. Ou alors juste le raconter parce qu'il faut avoir confiance en Allah comme l'oiseau. Il faut aller plus loin. Ça, c'est le travail qui a été fait en amont par les grands muhaddithines, les grands savants qui ont commenté les hadiths. Ils disent que voilà, chose qu'on n'a peut-être pas vue dans la métaphore, dans l'exemple cité par le prophète sallam, c'est que lorsque cet oiseau se lève, enfin lorsqu'il se réveille, d'accord, il va chercher sa subsistance. Et à partir du moment où il fait l'effort, il le trouve. Bitaqdirillah. Parce qu'Allah écrit son rizq, tel endroit est tel endroit. Et donc, si justement, dans une famille, il y a un frère qui réussit, l'autre qui ne réussit pas, ce n'est pas une injustice de la part d'Allah. C'est qu'Allah a décidé que lui, sa situation soit comme ça, et sa situation lui soit différente. D'accord? Maintenant, cette personne qui te regarde pour revenir avec admiration, qui souffre de ces deux maladies, l'attachement au bien de ce monde et la jalousie, parce qu'il ne croit pas vraiment au taqdir, n'a pas réalisé, ben cette personne peut te faire du mal, mais là, comme les hadiths le stipulent, c'est bi'idhnillah. Innal aina latula'u rajula bi'idhnillah. Que le regard, bismillah, la tahrisu ala idahi, peut vraiment procurer du tort à une personne, mais bi'idhnillah, par l'ordre d'Allah, comme on avait vu pour la sorcellerie, ça ne marche que par l'ordre d'Allah. Donc, il n'y a pas une fatalité, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas devenir peureux, il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux où on se cache, parce qu'on a peur que les gens me voient, j'ai peur que si quelqu'un me voit en voiture, ben il va dire que voilà, il a une voiture et tout, et ma voiture va tomber en panne. Non. Parce qu'après, on n'a plus confiance en Allah. Après, on risque de développer une peur. Vous savez que parmi Al-Khawf, il y a une catégorie de Khawf qui peut être en rapport avec le shirk. C'est quand une personne pense que quelqu'un peut te causer du tort directement. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance en Allah et tu commences à développer la crainte des gens. Donc le juste milieu, c'est de réaliser que al-ayn haqq, comme les hadiths qu'on va voir aujourd'hui, al-ayn haqq, c'est quelque chose, le regard, le mauvais regard, c'est quelque chose de réel, on prend les précautions. Qu'est-ce qu'on avait rappelé la dernière fois? On lit les doigts de protection. Et surtout dans le monde, je veux dire, corrompu, où les cœurs, c'est pas corrompu qu'au niveau financier, c'est les cœurs qui sont corrompus, avant tout. C'est les cœurs qui sont remplis de saleté et de maladies spirituelles. Ben, on a vraiment besoin, d'accord, de lire le doigt de protection matin et soir pour être protégé contre toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme on l'a dit la dernière fois, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas quelque chose que ça devient un peu plus effrayant. Et le fait qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, il faut garder confiance en Allah. Il faut garder à l'esprit la précision, le istithna bi'idhnillah. Autrement, on aura peur de tout. Et à chaque fois qu'il y a un problème, certainement, quelqu'un m'a jeté un sort, ou là, j'ai un petit peu mal au genou, là. Ça, c'est, la personne m'a vu monter les escaliers, il a dû voir que je monte bien. Donc, khalas, aïe, on va chercher quelqu'un pour une lecture et tout. Tu te rends malade. En fait, ta psychose, c'est plus dangereux que la sorcellerie et le mauvais regard ensemble. Il y a des gens, je vous assure, c'est malheureux de le dire, mais ils en font une obsession. Comme on a dit, le juste milieu. Hein. C'était pas là la dernière fois. D'accord? Nabil sort de la salle de Isha, il roule. Au niveau de l'intersection, il y a un gros sachet, un beau sachet, cadeau qu'on a mis, et que c'est lui la première personne qui va rouler dessus. On sait que ce sont des pratiques, d'accord, qui peuvent causer du tort. Tu lis tes doigts de protection, et on évite. On va pas faire le coq, moi, il roule dessus. Il faut être réaliste, d'accord? Ça, c'est un extrême, ne pas provoquer, chercher le mal. Maintenant, l'autre extrême, c'est la personne qui, n'importe quel problème qu'il va rencontrer dans sa vie, il va penser qu'il a été atteint par telle chose. Pourquoi est-ce que c'est plus grave qu'être hypochondriaque, les gens qui ont peur des maladies? Quand on est hypochondriaque, à la limite, tu as peur d'avoir chopé une maladie, un virus. Au moins, tu peux faire une analyse de sang. Et s'il y a un virus, on voit dans tes résultats, il y a tel truc, d'accord? Mais quand il s'agit de sihr et de ayn, tu fais comment? Ils n'ont pas inventé un scanner ayn, un scanner sihr ou autre chose. D'accord? Donc, tu vas te fier à ce que certaines personnes te disent, à certaines interprétations. Il va dire qu'est-ce que tu rêves, de quoi tu rêves le soir, et ainsi de suite. Et puis, tu vas te créer un monde tout seul, comme un grand. Et tu vas t'enterrer comme un grand. Mais comme un pauvre imbécile, en fait. Parce qu'il n'y a pas aucune confiance en Allah. On n'a pas réalisé que rien ne peut se produire sans l'ordre d'Allah. Et du coup, on va cumuler les signes, on va développer, on va être complètement parano, on va se renfermer sur soi, et on va devenir hypochondriaque, mais en concernant ce genre de choses pour lesquelles il n'y a aucun moyen de vérifier. Donc on s'enferme. Donc ça, c'est un extrême aussi. Et comme on l'avait dit également, il y a beaucoup de personnes qui accusent tout ce qui est occulte, et qui pense que c'est l'origine de tout le problème. D'accord? Quelqu'un qui a un mauvais comportement. Quelqu'un qui ne fait pas ses salats. Et donc qui n'apporte pas la barakade à sa maison. Une personne qui ne donne jamais l'aumône. Jamais. Quelqu'un a besoin de l'aide et tout. Dit non, moi je ne donne pas, c'est mon argent, j'ai gagné. Et que la personne ne trouve pas de bénédiction dans ses biens. Il ne faut pas qu'il aille chercher des raisons que peut-être il y a des gens qui me regardent avec envie, enfin, ils sont mal intentionnés. C'est pour ça que voilà, j'ai plus beaucoup d'argent. Non, c'est qu'à la base, tu n'as pas accompli les a'mal saliha, les bonnes actions qui apportent la bénédiction. Tu n'as pas accompli les bonnes actions qui te garantissent la protection. Tu n'as pas lu tes doigts de protection. Donc, il ne faut pas arriver dans un stade où on va chercher sans arrêt des causes paranormales parce qu'on ne s'en sort pas. Je connais même des personnes qui, face à ce genre de situation, même s'ils savent qu'il y a une piste paranormale, ils n'essaient même pas, ils veulent même pas y penser. Ils vont plutôt s'orienter vers une piste médicale. Parce qu'ils savent pertinemment que s'ils lèvent le caillou, ils lèvent un galet, mais ils vont trouver plein de choses et qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Je connaissais une personne comme ça qui avait quelques problèmes et n'avait parlé à un proche, et il avait des rêves un peu particuliers et tout, mais le papa de cette personne dit que moi, je dis pas que je crois pas, mais je ne veux surtout pas qu'on commence les investigations de ce sens, aucunement. J'amène la personne chez le médecin, il va faire tout ce qu'il faut comme traitement, mais on ne s'oriente pas du tout sur la piste du paranormal. Et alhamdulillah, quelques temps après, la personne s'en est sortie. La personne allait mieux. C'était un problème de thyroïde, donc qui causait parfois des états nerveux, ainsi de suite. Peut-être qu'il y avait autre chose et Allah seul le sait. Mais ala wajhi al-umum, d'une façon générale, qu'on ait un problème paranormal ou non, qu'on soit exposé ou non, qu'on ait des craintes ou non, qu'on habite dans un contexte où il y a ce genre de mal ou non, le musulman se doit de lire ses doigts de protection tous les jours. Et le matin, Ba'd al-Fajr, comme on l'avait dit la dernière fois, principalement, trois fois, Qul huwallahu ahad, trois fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq, trois fois, Qul a'udhu bi rabbin nas, ayatul kursi, et 100 fois, La ilaha illallahu, wahidahu, la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Ça, c'est impératif, bien inconscient, bien imprudent, celui qui ne le fait pas. Jour de semaine ou dimanche, sans distinction. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On vit dans un monde où les gens sont jaloux, où les gens sont malades. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, il faut prendre ces précautions. Ensuite, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu prends une décision, tu t'en remets à Allah. Là, on pourrait dire que quand tu as pris les précautions, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu mets dans les mains d'Allah. S'il t'arrive quelque chose, maktoub, c'était écrit. Et si rien n'était prédestiné, qu'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux, ce que tu as lu comme doua de protection, ça te garantira, inshallah, al-himaya, la protection. On avait parlé également des personnes qui s'exposent de façon ostentatoire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment de la bêtise, ça. Prendre la photo de sa femme, de ses enfants, de ses vacances. Une personne va en vacances à Maurice, d'accord ? Et ça, j'ai horreur de ça. Les gens qui prennent en photo leurs doigts de pied. Alors ça, franchement, c'est une aberration. Et ça, il y en a beaucoup. Ils prennent en photo leurs doigts de pied. Pourquoi leurs doigts de pied ? C'est parce qu'ils sont allongés sur une chaise, qu'on appelle une chaise longue. Chaise longue, près de la piscine, près de la plage. Et là, ils prennent photo leurs doigts de pied, en éventail, au soleil. Yahri. Tu as ni'am, alhamdulillah, tu travailles, tu as les moyens, tu as pu te payer des vacances. Personne n'a dit que ce n'est pas bien. Alhamdulillah, profite. Fais profiter ta femme, fais profiter tes enfants, mais n'expose pas ton bonheur aux gens. Ton voisin miskin, il est au Pôle emploi depuis 2 ans. Il touche le SMIC, non, le RMI, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Le RSA, d'accord, non, j'ai jamais vu la couleur. Le RSA, il touche tout ça. Il s'en sort pas. Il s'en sort pas. Arrivé le 25 du mois, khalas, il est abonné avec son ami Robert. Robert, c'est qui ? C'est des sardines, d'accord ? Et l'Eid, il attend le 6. Le 6, on fait moula 4. On fait l'Eid, alhamdulillah, on fait choukr. C'est les allocs qui sont versés. Le pauvre miskin, il s'en sort pas. Et toi, tu exposes ton bonheur, sachant que ça coûte l'hôtel, le machin. Yahri, Allah t'a donné un ni'ma. Alhamdulillah, remercie Allah, profite, c'est licite, mais n'en fais pas trop. Protège ton ni'ma, d'accord ? Mais il y a toujours un juste milieu dans chaque chose. On n'a pas dit vivre caché, mais ne pas vivre de façon ostentatoire. On continue. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, al-aynu haqqun walau kana shay sabaq al-qadr sabaqat al-ayn. Le regard, le mauvais regard, c'est une réalité. Et s'il y avait bien quelque chose, si conditionnel, il y avait bien quelque chose qui pouvait précéder le destin, ce serait le regard. Mais nous savons également que ce qui peut également précéder le destin, ce sont les doigts. Donc le doigt, ça te protège de ce genre de mal. Mais l'exemple, le hadith, la citation, par exemple, c'est pour qu'on comprenne que ça peut vraiment interagir avec ta vie. Ça peut vraiment t'apporter des difficultés. Ça peut vraiment changer, entre guillemets, ton avenir. Ça peut perturber ce que tu devais avoir. Donc, faites attention. Et la leçon à retenir, c'est de faire les doigts, il y a les adhkars, pour en être protégé. Donc, comme ils ont dit, ihris ala al-isti'adati minhu wa du'a. Fais en sorte, fais le maximum d'efforts pour demander protection à Allah Azza wa Jal contre le mauvais regard et fais les doigts de ce sens. Et justement, quel doigt faire contre le mauvais regard ? Est-ce qu'il y a des doigts masnoun ? Oui, il y a beaucoup de doigts. Un des meilleurs doigts, c'est celui qui est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. يعوذ الحسن والحسين. Le prophète عليه الصلاة والسلام lisez les invocations de protection sur Al-Hassan et Al-Hussein, les invocations suivantes. Avant de lire l'invocation, qu'est-ce qu'on déduit de cette première partie de hadith, de cette introduction de hadith? On comprend, on réalise que le Ayn peut toucher n'importe quelle personne. C'est pas que si on est religieux ou on n'est pas religieux. Là, le prophète a dit, et les précautions, on doit tous les prendre. On n'a pas à se dire que ben, moi je viens à la salah, je suis régulier dans mes a'mal, dans mes actions et tout, il n'y a rien qui va m'atteindre. Non! Le prophète salam, lit sur ses petits-enfants, Al-Hassan al-Hussein, petits-enfants de Nabiullah, du prophète d'Allah. Parce qu'ils peuvent être exposés. Et on va voir dans le hadith que, une fois ils ont été exposés au Ayn, et l'ange Jibril l'a enseigné, le prophète salam, qu'est-ce qu'il faut lire comme doua? Dire que ça peut toucher n'importe qui, et personne n'est à l'abri. Et là, le prophète alayhi salam, donc il lisait sur Al-Hassan et Al-Hussein, Ou'idhukuma. Ou'idhukuma. Quand on dit A'udhu, c'est je demande à Allah protection. Ou'idhukuma, c'est on demande à Allah de protéger cette personne. Bi kalimatillahi tamma, min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli. Déjà entendu le doua? Wa min kulli aynin lamma. Je recommence. Ou'idhukuma. Quand c'est deux personnes. Mais si vous avez un enfant, Ou'idhuka. Si vous avez plusieurs, à partir de trois, Ou'idhukum. Bi kalimatillahi tamma, min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma. À travers ce doua, on demande à Allah la protection contre le mal qui vient de shaytan, mais également contre le mal qui vient du mauvais regard. Le regard des êtres humains. Et le prophète alayhi salat wa salam, il précisait wa yaqul wa hakadha kana Ibrahim yu'awwidh Ishaq wa Isma'il alayhi salam. C'est par cette invocation qu'Ibrahim alayhi salam, c'est par cette invocation qu'Ibrahim alayhi salam protégeait ses enfants Ibrahim et Ishaq pardon Isma'il contre le mauvais regard. C'est la même invocation qu'il disait pour que ses enfants soient protégés contre le mauvais regard. Autre prophète donc qui lisait sur ses propres enfants, nous devons absolument, absolument lire sur nos enfants. S'ils sont intelligents, s'ils marchent, ils réussissent à l'école. Il y a des fois où ils mettent, hein, vous achetez de beaux vêtements pour eux, ils vont mettre ces vêtements, ils vont aller à l'école. Vous savez pas, ils vont être vus par des dizaines, des centaines de personnes. Il faut protéger les enfants contre eux, ces mauvaises choses. Et là, on va voir un exemple un peu plus, un exemple concret. Comme on appelle ça une étude de cas. Marra Amir ibn Rabi'a bi Sahl ibn Hunayf. On a deux personnes. On a la victime, on a le coupable. Alors, est-ce que ça s'appelle le coupable malgré lui? Certainement. Parce que je pense qu'il ne cherchait pas à faire du tort. Donc, Amir ibn Rabi'a, sahaba, radiallahu anhu, il est passé près de Sahl ibn Hunayf, Hunayf oui, qui était en train de prendre un bain. Donc la victime c'est Sahl ibn Hunayf. Faqal lam ara kal yawmi wa la jilda ila akhir al hadith. Amir a admiré la beauté de la peau, on va dire le teint de Hunayf. Bien sûr, quand il prenait le bain, le satar était couvert. Il y avait comme on appelle un longhi ou d'accord, rida. Mais il prenait le bain. Donc il a vu le teint donc, de sa peau et il était admiratif. Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui a une peau aussi belle, aussi éclatante, aussi... Mashallah. Non mais il n'a pas dit Mashallah justement. J'ai jamais vu quelqu'un aussi beau que lui. Fama al-Abitha, quelques instants après, la personne est tombée gravement malade. Et on a prévenu le prophète alayhi salat wa salam que Sahl ibn Hunayf est gravement malade. Et le prophète alayhi salat wa salam a compris que c'était un ayn, un mauvais regard. Et il a demandé man tattahimu nabi, selon vous, qui est la personne qui a apporté ce regard sur lui? Ils ont dit que ben on a vu Amir ibn Rabi'a qui passait et qui s'était exclamé que voilà quel jeune homme, mashallah, il a des qualités, il a des atouts. Et là, le prophète alayhi salat wa salam dit une parole, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Au nom de quoi un frère est prêt à tuer son autre frère? Ce qui veut dire, c'est que lorsque tu admires une personne, sans ramener ce ni'ma vers Allah par un dhikrullah, par une parole qui ramène vers Allah Azza wa Jal, sans faire un dua qu'Allah te barakallahu fik ou qu'Allah te protège, hafidhakallah, ben, ça peut avoir une telle conséquence, c'est exactement comme si que tu avais pris une arme et tu avais poignardé ton frère. Le regard brut, sans dhikrullah, ça peut être tellement mauvais et que tu es coupable d'une certaine façon de ne pas avoir fait le dhikrullah lorsque tu as vu ce ni'ma. Il dit, c'est comme si qu'une personne porte atteinte, qu'une personne tue son frère. A'lama yaqtulu ahadakum ahadukum akhahu. Au nom de quoi une personne est prête à tuer son propre frère. Idha ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka. Si l'un d'entre vous voit chez son prochain un bienfait qu'il admire, qui le plaît, فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, qu'il doit faire dua, qu'Allah lui accorde la bénédiction, la baraka. Et ne pas se contenter de regarder, d'admirer. Parce que regarder, admirer sans faire dua, ça peut être nuisible pour cette personne. ثُمَّ دَعَى بِمَاءٍ. Et là, la personne va faire un amal qui n'est pas simple. En tout cas, qui n'est pas à la portée de tous. Le prophète sallam demande au sahaba d'amener un peu d'eau, et là il appelait Amir. Amir, c'est, on va dire, le coupable malgré lui. Et il a dit à Amir, fais tes ablutions, ainsi de suite. Et il a pris cette eau et il a demandé à la, c'était comment s'appelle la victime, Sahal ibn Hunayf, de verser l'eau de ses ablutions sur lui, et il a retrouvé wa amarahu an yusabba alayhi, et il a retrouvé la santé complètement. Donc les savants, les ulama, rahimahumullah, en commentaire de ce hadith et les autres hadiths, les autres versions qui vont dans ce sens, disent qu'une première façon de guérir, mais ça c'est radical, c'est immédiat, contre celui qui t'a admiré, qui t'a causé du tort, c'est de lui demander de faire des ablutions, de récupérer l'eau et de mettre l'eau sur soi. Mais de un, il va pas te croire. Ça ne va pas être possible. D'accord ? Tu ne vas pas convaincre la personne. La personne va être vexée. Le prophète, il pouvait se permettre. C'est un qaïd. C'est Nabiullah. Les gens l'écoutaient. Et cette situation, Allah l'a créée, oui ou non ? Allah a créé la situation pour qu'on voit que le mauvais regard, c'est quelque chose de réel. Et qu'on voit également quelle est la méthode possible. Non. D'autant plus quand il s'agit d'une situation où on n'est pas au courant, qui sait qui a regardé, ainsi de suite. Dans, là, on a bien compris que c'est impossible. Là, c'est plutôt les lectures qui sont nécessaires pour essayer de retrouver, inshallah, la santé. Et en commentaire également, les savants disent, il y avait un hadith que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, un récit où il est relaté qu'il y avait des personnes, déjà à l'époque des sahaba, il y avait des personnes qui étaient réputées. J'avais le nom de la tribu, j'ai dû le lire, subhanallah, dans la tafsir de Qurtubi aujourd'hui, sur ordinateur, on n'a pas pu imprimer, l'imprimante ne marche pas. Donc, dans Qurtubi, il y avait une tribu qui était connue pour avoir un regard pesant. Il y avait des gens qui étaient connus. Et même à notre époque, quelles que soient les époques, en général de votre entourage, vous devez être capable de repérer ce genre de personnes. Sans être parano, mais il y a des gens comme ça, on sait, quand vous amenez à la maison, comme il dit en créole, les yeux pètent partout. Embêtant, ça, hein? Vous l'amenez chez vous. Ah, waouh, c'est beau ça. Mais ça, c'est nouveau. T'avais pas ça la dernière fois. T'as payé combien ça? J'aurais bien aimé avoir un truc comme ça. On dit, bah, il y a une vieille histoire. D'un ali, bye, au moins on va dehors tranquille à soi, d'accord? Et je connais l'exemple d'une personne qui ils avaient beaucoup de problèmes de santé, et sans arrêt, une personne était partie rendre visite, il a expliqué la situation, il s'est rendu compte, bon, après c'est une interprétation, Allahu a'lam, qu'en entrant dans la maison de la personne, sur la table, il y avait toujours une coupe de fruits. Une coupe, je ne sais pas si c'est une tradition créole, une coupe avec des fruits, les fruits de saison. Mangue, ananas, banane, et ainsi de suite. C'est une décoration, ça apporte un parfum, et il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Sauf que chaque personne qui venait, ben, il regardait. Et quand vous regardez, ça ne veut pas dire une personne, je peux avoir la banane là ? Je dis que quand même, oui. D'accord ? Et donc, certainement, les gens qui étaient de passage, ils regardaient, ben, c'était un regard d'envie. Mais et du coup, c'est l'interprétation de la personne. Hein. Peut-être que c'est ce « aïn » là qui vous cause préjudice. N'expose pas la chose de cette façon. D'accord? Après, comme on dit aux enfants, mange pas tout goûter devant tout le monde, regarde et tout. Après, il faut, je suis d'avis qu'il ne faut pas trop pousser non plus. D'accord? Il ne faut pas trop pousser parce qu'après, il y a une déviance de la confiance. On ne fait plus confiance en Allah. On a plus cette conviction que c'est Allah qui décide. On pense que si quelqu'un veut me faire du mal, avec ses yeux même, il peut me détruire. Non! Non, 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 non. C'est pas, on n'est pas dans les, qu'on appelle le X-Men là avec les yeux. Non! Si c'était comme ça, d'accord? C'est pas que la moindre personne qui te regarde, ça va te faire du tort. Non, il faut pas aller vers cet extrême parce que sinon il y aura un manquement dans la confiance en Allah Azza wa Jal. N'oublions jamais que ça peut atteindre bi'idhnillah si Allah l'a décrété. Et donc, les savants disent, si dans votre entourage, vous savez qu'il y a des personnes qui ont cette sensibilité, d'accord, qui ont cette faiblesse plutôt de foi et qui ont un regard envieux, toujours en train de râler, ce regard un peu jaloux, soit vous prenez vos distances avec ces personnes. Si ce sont des amis, alors franchement, prenez vos distances. Vraiment, si c'est un ami, ben je pense que tu as d'autres amis. On évite au maximum parce que c'est compliqué. Mais si c'est quelqu'un de la famille, on peut pas pas dire que tu n'es plus de ma famille, ça c'est pas possible, mais ne pas exposer les bienfaits, ne pas étaler les ni'mas, les bienfaits. Autre hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس. Demandez protection à Allah contre le regard des djinns et des ins. فلما نزل المعوذتان أخذهما وتركما سوى ذلك. De Imam Ahmed. Le prophète avait donc l'habitude de demander protection, mais lorsqu'Allah lui a révélé les versets de protection. Le prophète se suffisait de ces deux sourates. Mais avec yaqin et conviction, bien sûr. Parce que si on creuse un peu le tafsir de Qul a'udhu bi rabbil falaq, ben on a les versets idéaux pour la protection contre le mal que les gens ils peuvent faire. Et quand vous lisez le tafsir de Qul a'udhu bi rabbin nas, on a également la protection contre tout ce qui peut venir des shayatin. Donc c'est les doigts les plus complets. C'est ce qu'on a de le Coran. Et Allah a révélé, Allah a créé la situation où le prophète sallam avait été atteint par la sorcellerie et qu'il a reçu ces versets. Allah lui a accordé la santé et c'est également un dars, une leçon pour l'humanité. Donc al-falaq et al-nas, c'est après chaque salat. C'est pas uniquement le matin ou le soir. Parmi les adhiya à masnouna, ce qu'on doit lire après chaque salat, c'est-à-dire quand la salat est terminée, après les adhkar qu'on connaît, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, précédé de ayatul kursi. Ça, c'est après chaque salat. Et quand c'est la salat de Fajr et de Maghrib, là, c'est trois fois. Les trois sourates, on les lit trois fois. Donc, voyez combien de fois par jour un musulman va lire al-falaq et al-nas. Uniquement les doigts après les salats, ça nous fait 6 plus 3, 9 fois. On a lu 9 fois Al-Falaq, An-Nas et Al-Ikhlas, et au moins 5 fois Ayatul Kursi. Tout ça c'est nécessaire dans chaque laps de temps pour nous protéger contre tout ce qui est mauvais. Autre hadith, Jibril alayhi salam était venu voir le prophète qui était malade. Il a dit, ashtakaita ya Muhammad, est-ce que tu es malade? Le prophète dit oui. Qala bismillahi ruqik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin wa 'aynin yashfik bismillahi ruqik. Il a lu ce doua qui se trouve dans la citadelle du musulman Hassan al-Muslim. Donc c'est Jibril alayhi salam qui a enseigné au prophète alayhi salatu wa salam ce doua de remède. Ça, c'est pas un doua de protection. C'est un doua de remède contre le mauvais regard. Autre hadith, le prophète Ali Salat wa Sallam nous rappelle encore l'ayn wa haqq, le regard, c'est quelque chose de réel. Wa yahduruha ash-shaytan. Et c'est Shaytan qui amène cette situation. Wa hasad ibn Adam. Et la jalousie de l'être humain. Donc il y a deux facteurs, il y a le facteur satanique, mais également le facteur, la jalousie de l'homme, de l'être humain, et ça on en a déjà parlé. Et après il y a plein de hadiths, celle de Aïcha, par exemple, dit « Ista'idu billahi fa'innal a'ina haq », ça va dans le même sens. Demander protection à Allah contre le mauvais regard, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a plein de hadiths
de chaînes de narration différentes rapportées par des sahabas différents, ce qui veut dire que le prophète a cité cela à différentes occasions pour qu'on réalise vraiment que c'est quelque chose de nuisible. Il y a un hadith qui va un peu plus loin. قَدْ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْعَيْنُ فِي الْقَبْرِ. Le regard peut faire rentrer un homme de la tombe, c'est-à-dire ça peut te faire tomber tellement malade jusqu'à en mourir si la personne ne prend strictement aucune protection. Ces hadiths, ce sont des mises en garde. Et dernier hadith qu'on a retenu, c'est lorsque Jibril alayhi salam était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était attristé. Il a dit: Ya Muhammad, ma hadha al-gham alladhi araka arahu fi wajhik. Quelle est cette tristesse que je vois sur ton visage? Et le prophète m'a dit que Al-Hassan et Al-Hussein asabat-huma ayn, que Hassan et Hussein ont été atteints par le regard. Et là, Jibril a dit: Saddiq bil-ayn, fa inna al-ayn haqq. C'est une vérité, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, car le mauvais regard, c'est haqq, c'est une réalité. Afala awwadhtahuma biha'ula'i al-kalimat. Tu devrais demander protection quand le regard par ses paroles. Et le prophète dit: Wama hunna ya Jibril, quelles sont ces paroles? Et là, c'est un doua qui est un peu long, un peu plus compliqué. Jibril a enseigné au prophète sallam: Allahumma dha sultan al-azim, dha al-man al-qadim, dha al-wajh al-karim, wali al-kalimat al-tamat, wa al-da'awat al-mustajabat, aafi al-hasan al-husayn. Et là, on pourrait interchanger avec d'autres noms. À quoi la santé protège Al-Hassan al-Hussein? Min anfusil jinni wa a'yunil ins, faqala han-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a lu donc le doua que Jibril l'a enseigné. Faqama yal'abani bayna yadayhi. Ils se sont levés immédiatement, ils ont recommencé à jouer. C'est-à-dire que ça a été radical. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et maintenant le prophète va l'enseigner à sa umma: عَوِّذُوا أَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ بِهَذَا التَّعْوِيذِ. تَعْوِيذ, protection, pas تَعْوِيذ qui porte le coin. Protégez femmes, enfants et vous-même par ces doigts de protection. فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَوَّذْ أَلْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِ. Car personne n'aura lu un doua aussi puissant pour avoir protection contre ces mauvaises choses. Et donc, tentative de Quraysh, Allah a protégé. Et le discours qui rejoint ce qu'il disait depuis tout le temps et qui a été cité au début, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Et ils disent, il est certes fou, mais Allah rappelle: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Il y a ces versets, cette sourate, ce Coran, la révélation est un rappel pour l'ilalamin, au monde. Et c'est jusqu'au qiyam. Et tant qu'il y aura une personne qui a la ilaha illallah, qui a la foi de son cœur, cette personne pourra toujours, toujours profiter spirituellement du Coran, quelle que soit l'époque, quel que soit le degré de fitna, même à l'époque du Dajjal, la protection se sera par la lecture de la sourate Al-Kahf. C'est-à-dire que le Coran, c'est vraiment Hablillah, c'est vraiment l'isma, c'est vraiment la protection pour le musulman, et on doit vraiment s'accrocher à la parole d'Allah qui est un rappel pour les mondes. Bihada, on termine, on a complété le tafsir de la sourate Al-Qalam, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre le sens de ces versets, que tous les encouragements qu'Allah Azza wa Jal a révélés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des situations très difficiles où il a souffert de la calomnie, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des persécutions, ainsi que ses sahabas, que les encouragements qu'Allah a révélés à son prophète alayhi salatu wa sallam, que nous aussi on arrive à trouver réconfort à travers ces réactions, qu'on arrive à réaliser la destination des zalim, des oppresseurs, quelles seront leurs situations dans l'au-delà, et qu'on retient inna lil muttaqina, qu'Allah a réservé pour les gens pieux le paradis, et qu'on arrive à s'accrocher à ces versets pour trouver une solution, pour trouver une réponse à nos questions, et pour mieux vivre sur le sirat al-mustaqim, ce qui est le but du Coran, permettre aux mu'min de vivre dans le droit chemin en suivant les ordres du Coran. Et qu'Allah nous pardonne s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des tafsirs ou des paroles qui ont été mal traduites, mal interprétées, ou qu'on n'avait pas suffisamment vérifié les sources. Quels que soient les manquements, il s'agit là de la parole d'Allah. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah pardonne nos manquements, et que la réalité est la lumière de des versets de cette sourate, inshallah, pénètre nos cœurs et qu'on puisse le mettre en pratique. Allahumma amin. Ça va être là, inshallah. On n'a pas mis le chronomètre. Du tout, je ne sais plus. On est à combien de minutes? Inch'Allah, la prochaine fois, il me semble que vendredi prochain, c'est l'Assemblée Générale, non? D'accord, donc vendredi prochain, on ne fera pas d'ars, tafsir, on fera d'ars, Inch'Allah, dans deux semaines. Juste pour avoir une idée, pour voir quelle sourate on va aborder, Inch'Allah, on va lire, on va Inch'Allah voir la sourate Al-Haqqa, Mal-Haqqa. Al-Haqqa, ça se traduit par la réalité. La réalité, l'heure qui montre la vérité, c'est-à-dire c'est un début de surah qui parle du akhira, du qiyama, de l'au-delà. Al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. On va voir que ce usloub, cette façon de présenter, de demander qu'est-ce que c'est et qui te dira, c'est pour que vraiment la personne qui écoute réalise que le sujet c'est d'une importance capitale parce que cela a été cité trois fois en trois versets différents. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va citer l'exemple de qaum, de peuples qui nous ont précédés et qui n'avaient pas cru au qiyama. Kadhabat Thamoudu wa Adu mil Qari'a, le peuple de Thamoud ainsi que le peuple de Ad. Et Allah Azza wa Jal va rappeler comment est-ce qu'il a détruit فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهُلِكُ بِالطَّارِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ. Comment est-ce que le peuple de Thamoud a été détruit, par quel châtiment? Comment le peuple de Ad a été détruit, par quel châtiment? On va essayer de voir. Et comment est-ce que cette tempête qui s'est abattue sur eux, c'était d'une violence et c'était vraiment sans pitié. Les hadiths décrivent comment est-ce qu'ils ont été terrassés. Allah va citer également l'exemple de وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ, l'exemple de Pharaon et du peuple de Lout, afin que ce soit un rappel pour les Arabes qui sont avec le prophète alayhi salatu wassalam, parce que bien sûr surat al-Haqqa c'est une sourate qui est makkiya, un chapitre makki, donc le prophète sallam est entouré de personnes qui sont hostiles pour que ces Mécois entendent et reconnaissent des histoires en laquelle ils croient, parce que ces tribus arabes qui étaient de la péninsule arabe principalement, le plus proche si je ne me trompe pas c'était la tribu de Madain Salih. D'accord, le prophète Thamoud, le Waïla Thamouda, Acham Salih, le peuple de Thamoud, c'était près de la péninsule arabe. Et les Arabes connaissaient parfaitement cette histoire. Ils connaissaient l'histoire et ils y croyaient. Et donc le Coran va apporter une description encore plus précise que ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient eu comme héritage, comme transmission d'histoire de la part de leurs ancêtres. Il y aura les histoires qui sont citées avec détail, afin qu'ils voient, que ce soit un rappel pour eux, que ces peuples-là, qui habitaient pas loin de nos demeures, ils ont désobéi à Allah, ils n'ont pas cru à Al-Haqqa, au Qiyama, et voilà donc le châtiment qui s'est abattu sur eux. Ah, non. Et puis également l'exemple du peuple de Nuh alayhi salam avec le déluge, c'est-à-dire que dans les 12, on pourrait dire les 12 premiers versets de Al-Haqqa, il y a le rappel sur la réalité du Qiyama et sur ceux qui n'ont pas cru, avec l'exemple de ceux qui n'ont pas cru et quelle fut leur destination, afin qu'on n'emprunte pas le même chemin qu'Allah nous protège. Et ça c'est une richesse du Coran. Une richesse du Coran, c'est que tu as un visuel sur l'humanité. Il n'y a pas plus grand livre d'histoire que le Coran. Tu as un visuel sur toutes les populations qu'Allah a créées depuis le premier homme, afin que leur parcours soit un modèle, pour nous, ou alors une mise en garde pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On verra ça, Inch'Allah, dans deux semaines, avec pour objectif, je pense, idéalement, si on peut démarrer Al-Haqqa et le compléter, Inch'Allah, avant le mois béni de Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.